Evet, tabii ki problem yok.
Pour de vrai, j'ai des restants d'une grippe. Ça fait 30 jours que j'ai pogné une grippe. Puis c'est des restants qui je suis bien, là, tu sais, j'ai pas de fièvre, je suis pas malade, je suis fonctionnel, mais ça demeure pris dans ma gorge. Fait que j'ai dit, je vais au moins mettre le masque pour le reste. Alors, ben, on va. Ben, avant de commencer, je voulais vous remercier. La dernière fois, je suis venu, c'est en juin, hein, je pense, c'est ça. Et cette semaine, je faisais des remerciements quand je reçois soit des dons ou quand je vais dans les églises. Puis là, j'ai vu Sainte-Marie, juin, puis je prends tout en note, puis là, j'ai vu que j'avais comme soit oublié de l'écrire ou soit oublié d'envoyer un merci. Fait que je voulais vous remercier si j'ai oublié. À chaque fois que je viens, vous me donnez un montant, puis je suis vraiment reconnaissant de voir les églises qui prennent soin comme ça de nous, de notre famille. Merci pour vos prières. Alors, je voulais juste vous remercier. Si je vous ai oublié, j'ai peut-être juste oublié de le noter, mais je prends tout en note quand je remercie pour ne pas oublier de remercier, c'est important pour moi de le faire. Et cet automne, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé un programme d'études. J'ai à temps plein. Donc, j'ai travaillé, j'étais aux études du 9 août jusqu'au 20 novembre. Alors, c'était des grosses, grosses semaines. Parce que j'avais 5 cours. C'est 5 cours avec beaucoup de travaux, beaucoup de lectures, à travers le travail de l'Église aussi. Alors, c'était une grosse automne pour toute la famille, mais pour moi principalement. Et je m'en suis sorti. Je recommence en janvier. Ça va durer 4 ans en passant. C'est un cours sur 4 ans. Et je recommence en janvier, mais je vais commencer dès la semaine prochaine pour prendre un peu dès demain. Pour prendre un peu de l'avance, parce que en janvier aussi, on tourne la nouvelle série de l'heure de la bonne nouvelle. Et c'est ça. Il faut que je puisse aller tourner les émissions avec François et le reste de l'équipe. Et si j'ai les cours en même temps, puis je n'ai pas pris d'avance, je n'arriverai pas. Donc, il faut que je commence déjà demain à prendre un peu d'avance. La famille va bien. Écoutez, ils ont ri de moi parce que quand j'ai pogné ma grippe d'homme, comme ils ont dit, ils ont tous ri de moi. Parce qu'ils ont dit, bon, là, une grippe d'homme, mais la grippe s'est vengée, puis ils l'ont tout eu. Alors, on a eu le mois passé, là, tout le monde y a passé, finalement. Mais c'est ça, c'est pas un simple rhume. C'est probablement une influenza. On s'est testé à plusieurs reprises. C'était pas la COVID. Mais donc, c'est ça, ça met à terre, puis c'est plus difficile. Puis les séquelles, ils restent, on dirait, longtemps. J'espère que je vais avoir ma voix pour l'enregistrement en janvier des émissions. Ça, c'est ce que j'aimerais que ça revienne d'ici là. Ça devrait, il reste un mois et demi à peu près. Alors, ce matin, on commence l'étude des deux lettres de Pierre. Alors, on va avoir un bon temps ensemble. On va venir à tour de rôle avec les autres frères de l'Assemblée qui ont participé. Et on va juste lire deux versets ce matin. L'introduction, les deux premiers versets. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. Et on va voir, en fait... qui est l'auteur, qui sont les destinataires, et on va voir aussi l'intention de l'auteur. Pourquoi Pierre a écrit ces lettres-là? Alors, on va lire juste les deux premiers versets qui vont comme suit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vais prier, puis ensuite on va regarder ces versets, puis l'introduction de cette lettre. Seigneur, on veut juste être à l'écoute, parce que tu es un Dieu qui parle. On le voit dans les Écritures, on l'a vu ce matin encore. Et puisque tu es un Dieu qui parle, on veut s'arrêter et être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Et merci parce que tu nous parles tous avec la même parole, mais différemment aussi, chacun, parce qu'on n'est pas tous à la même place spirituellement. et tu nous enseignes chacun. Donc, bénis ce temps ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, l'auteur se présente dès le début comme étant Pierre, on sait c'est qui, apôtre de Jésus-Christ. Alors, on va parler un peu de Pierre. On va aller même à dehors de la Bible, on va regarder dans l'histoire qui est Pierre. Bon, il a écrit ses lettres environ dans les années 60-64, après la mort de Jésus, de notre ère. Pas très longtemps après la résurrection. Christ est mort, ressuscité. Donc, c'est quand même fiable. Plus qu'on écrit proche des événements, plus que l'Écriture est fiable. Plus que ce qui a été écrit, on peut faire confiance. Quand Jésus a appelé Pierre, vous vous rappelez comment Pierre était, il n'a pas hésité, il a laissé son filet, il a suivi Jésus. Ça, c'était Pierre. Vous vous rappelez aussi de Pierre, quand il a vu les miracles de Jésus, il n'a pas hésité à reconnaître, puis il était même surpris de voir comment Jésus était puissant. Il a dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Il a reconnu que Jésus était le Messie. Pierre était un homme sûr de lui. Il avait plein de bonnes intentions. Il n'a pas hésité pour dire à Jésus, « Je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt. Je vais y aller, moi. » Mais Jésus connaissait Pierre. Et probablement plus que Pierre ne se connaissait lui-même. C'est rassurant de savoir que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, on se connaît. Pierre n'a pas hésité à renier le Seigneur trois fois. On connaît l'histoire. Durant la nuit avant sa crucifixion. Et après sa résurrection, Jésus l'a rétabli. On le sait encore. L'histoire, dans la parole, nous le dit. À trois reprises, il a dit, « Paix mes brebis. » Il a dit, « Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? » À trois reprises, il a demandé, « Dis que tu m'aimes. » Puis il a dit, « Prends soin de mes brebis. » Pierre était un leader de l'Église à Jérusalem. On voit ça dans Acte 2. On l'appelait l'apôtre des circoncis, donc des Juifs. On voit ça dans Galates. Mais plus tard, Pierre a élargi son ministère pour atteindre même les païens. Vous vous rappelez de la vision de la nappe qu'il a eue? Hein, il y a une nappe, il était sur le toit de la maison de Simon, le corroyeur, à Jaffa. La nappe a descendu. Et Dieu, en fait, lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, comme impur. On voit ça dans Acte 10. Alors, Pierre a commencé à Césarée, il a voyagé à travers la Judée et la Samarie pour prêcher aux païens l'Évangile de Jésus-Christ. Il a prêché le message de l'Évangile et il a été prêt à mourir plutôt que de se taire. Et c'est un argument très fort pour la véracité de l'Évangile. Une personne qui prêche un message puis qui est prêt à mourir pour ce message-là, ben, ça nous en dit gros sur la véracité de ce message-là, de l'Évangile. Personne ne serait prêt à mourir pour quelque chose qui sait être un mensonge. Mais c'était la vérité. Pierre a vu de ses yeux le Seigneur Jésus, la résurrection. Il est allé prêcher Christ, l'Évangile, puis il était prêt à mourir. Plutôt que de dire, « Ah non, finalement, non, je ne suis pas vrai. » Non, c'était vrai, puis il est allé jusqu'au bout. Et là, on se pose la question, puis c'est là qu'on va faire une petite rabbit trail, qu'on dit en anglais, je ne sais pas en français, une petite escapade là à côté, dans les écrits, en dehors des Écritures, parce que j'aimerais, bon, on va regarder aussi les Écritures, mais on va aller un petit peu plus loin pour voir, est-ce que Pierre est mort, martyr à Rome, crucifié la tête en envers sous Néron? Vous savez que c'est ça que l'histoire nous dit. On a entendu ça depuis toujours. Moi, je ne suis pas de l'Église catholique, mais dans l'Église catholique, on disait ça aussi. C'est la tradition. Pierre est mort, crucifié la tête en envers sous le règne de Néron. Donc, est-ce que c'est vrai? J'aimerais ça qu'on regarde si c'est vrai, ça, ensemble. La référence la plus ancienne qui parle de la mort de Pierre, on la retrouve dans la Bible. On commence dans les Écritures inspirées de Dieu, et c'est Jésus. Si vous voulez tourner, on peut regarder dans Jean 21. La première référence, en fait la plus ancienne, C'est dans la Bible. Donc, on le sait que Pierre, il a eu une mort spéciale, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et on croit aux paroles de Jésus. Alors, Jean 21, au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et on le sait, Jésus disait ça parlant de la mort, quelle mort Pierre allait avoir. Et Pierre dit quelque chose dans sa deuxième lettre, vous pouvez retourner dans Pierre maintenant, qu'on peut associer à ces paroles-là de Jésus. On va faire une petite escapade dans quelques versets plus loin dans les deux lettres. Je ne veux pas m'en tenir juste au verset 1 et 2. Mais regardez au 2 Pierre, chapitre 1. Je pense qu'on peut faire des liens avec ce que Pierre dit dans sa deuxième lettre et ce que je viens de vous lire de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, nous dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, en parlant de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je le quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Alors, Pierre est en train de dire, Jésus m'a dit que j'allais quitter ce corps, cette tente, subitement. Alors, probablement qu'il fait lien avec ce que je viens de vous lire dans Jean. Il sait que le moment approche, puisque Jésus lui a dit, « Quand tu seras vieux. » C'est intéressant, déjà, il savait que je vais vivre vieux. Ce n'est pas le cas de nous, on ne le sait pas si on va vivre vieux ou jeune, mais Pierre, il savait. Il dit, « Quand tu seras vieux. » Il sait aussi qu'il va être exécuté, parce que Jésus a dit, « Un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il va être contraint sous l'emprise d'une autre personne. Il sait donc que ça ne sera pas nécessairement une mort dans son lit. Tu t'endors, tu ne te réveilles pas, puis une belle mort. Non, il sait qu'il va avoir quelque chose qui va être exécuté ou quelqu'un va avoir une main mise sur lui. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce que Jésus fait une référence à la crucifixion quand il dit « Tu étendras tes mains ». Hein, Jésus, il a dit ça, « Tu étendras tes mains ». Et c'est intéressant. Peut-être que oui, peut-être que non. L'auteur Carson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Lui, il note que dans le monde antique, la phrase « étends tes mains », ça réfère souvent à la crucifixion dans le monde antique. Et il y a plusieurs auteurs du 2e siècle qui interprétaient cette expression-là, « étends tes mains », comme étant une référence à la croix du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas concluant. On ne peut pas dire « ah, tu vois, Jésus l'a dit, tu étendras tes mains, ah, il est mort crucifié. » On ne peut pas conclure ça avec ces trois mots-là, « tu étendras tes mains », ces mots-là, que Jésus parle d'une crucifixion pour Pierre. Parce que ça peut aussi vouloir dire de se faire attacher les mains. Tu étendras les mains, puis il y a un autre qui va te saindre, qui va t'attacher, puis il va te mener où tu voudras pas. Donc, les deux sont possibles. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelques sources en dehors de la Bible. Et c'est sûr que ce n'est pas des sources inspirées, mais on peut faire confiance dans une certaine mesure à des livres historiques qui ont été écrits, mais ne sont pas inspirés. Il faut tout de suite se dire ça dans la tête. Clément de Rome. Clément de Rome est le premier à avoir fait référence au martyr de Pierre et de Paul. Parce que lui, il a écrit une lettre aux Corinthiens en 95-96. Et dans sa lettre, il dit simplement que Pierre a été persécuté et a même abouti à la mort. Ça, c'est Clément de Rome qui écrit ça dans sa lettre en 96. Puis c'est proche des événements. 96, on parle de 65 quand Pierre a écrit. Donc, on peut quand même faire confiance que c'est probablement quelque chose que lui, Clément, il était au courant. Puis qui a écrit aux Corinthiens. Pierre a été persécuté et a même abouti à la mort. Un autre texte qui nous démontre que la tradition disait ça, que Pierre est mort martyr sous le règne de Néron, c'est dans l'Ascension d'Ésaïe. Ça, c'est un écrit, c'est un texte en fait apocalyptique qui n'est pas canonique, qui n'est pas inspiré. On a écrit ça entre 112 et 138. Encore une fois, ce n'est pas très loin des événements. Et écoutez ce que on retrouve dans l'Ascension d'Ésaïe, je vous lis ça, parce que je ne peux pas vous dire tourner, ce n'est pas dans vos bibles. c'est pas dans le livre d'Ésaïe, hein, c'est l'Ascension d'Ésaïe. C'est une autre sorte de livre. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Alors se lèvera Béliar, qui est un autre mot pour Satan, le grand prince, roi de ce monde, qui le dirige depuis son origine, et il descendra de son firmament sous forme humaine, roi de la méchanceté, assassin de sa mère. » Il parle de Néron ici, parce que Néron était le roi, qui était un roi méchant, et Néron a assassiné sa mère. Néron, sa mère, Julia Agrippina, en fait Agrippina, il l'a assassiné. Alors, il parle ici de Néron. Il descendra de son firmament sous forme humaine. Donc, Satan, il vient sous la forme humaine en tant que Néron, roi de la méchanceté, assassin de sa mère, qui est lui-même roi du monde. Et il va persécuter la plante que les 12 apôtres du bien-aimé auront plantée. Donc, la plante qu'ils ont plantée, on sait que c'est l'Église qui a débuté après le Seigneur Jésus est ressuscité. Et l'un des 12 sera livré entre ses mains. En parlant de Néron, en parlant de Satan sous forme humaine. Alors déjà, dans ce texte-là, on voit qu'on croyait que Pierre a été livré entre les mains de Néron et a été exécuté. Un autre texte que je trouve intéressant aussi, c'est les actes de Pierre. On a les actes des apôtres, mais on a aussi le livre, les actes de Pierre. Ça a été écrit en 180, 190. Encore, là, on s'éloigne, mais c'est encore pas trop loin. Assez proche pour qu'on puisse retrouver une certaine valeur historique dans ce livre-là. Par contre, ce livre-là, les Actes de Pierre, contient beaucoup de matériel légendaire. Quand on lit, là, il y a beaucoup de légendes. Alors, tu sais, on l'en prend et on en laisse, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette tout ça et qu'il n'y a rien de valeur et qu'il n'y a rien qui est arrivé dans l'histoire de cette époque-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les Actes de Pierre, quand Pierre s'approche du lieu d'exécution, parce que tout est décrit dans les Actes de Pierre, quand il va se faire exécuter, il prononce un discours devant le peuple, selon ce livre-là, devant le peuple et devant la croix. Et il conclut son discours en disant, « Je vous demande donc, bourreau, de me crucifier la tête en bas de cette façon et pas d'une autre façon. » Il aurait terminé, puis là, ils l'ont crucifié la tête en l'envers. Et Pierre donne un dernier discours, je ne sais pas comment il a fait, mais la tête à l'envers, un dernier, il ne devait pas être un long discours là, d'une heure, la tête à l'envers, il donne un dernier discours avant de mourir. Et dans ce discours-là, il explique pourquoi il a voulu être crucifié la tête en bas. Il explique en fait qu'Adam, le premier homme, est tombé et a renversé le cosmos. Et que le monde ne peut être vu debout et restauré que par la croix de Jésus-Christ. Alors, sa crucifixion à Pierre, à l'envers, démontre le monde déchu, viré de bord à cause du péché. La crucifixion de Christ démontre en endroit le monde restauré, parce que Christ est venu pour restaurer cette chute-là, ce péché-là. Et c'est la raison qu'on retrouve dans ce livre-là, des Actes de Pierre, pourquoi il a voulu être crucifié la tête à l'envers. Alors, c'est tout ça qui a été crucifié la tête à l'envers sous le règne de Néron, c'est pas des choses qu'on a inventées ou quoi. C'est des histoires qu'on a retrouvées dans l'histoire, qu'on a tout bâti ça. Puis aujourd'hui, je pense qu'avec le texte biblique, que Jésus lui dit que tu vas mourir d'une manière spéciale, qu'un autre va... Et les autres textes par-ci, par-là qu'on a trouvés, qui ne sont pas inspirés, il ne faut pas l'oublier, je pense qu'on peut quand même croire avec une bonne certitude que oui, Pierre, il serait mort sous le règne de Néron, crucifié probablement la tête à l'envers. Quelques années avant son martyre, Pierre a écrit ces deux lettres-là. Donc, je ne sais pas combien d'années, mais quelques années, il a écrit deux lettres, la première et la deuxième épître, entre 60 et 64, comme... je vous l'ai dit tantôt, et il a été martyr entre 64 et 68. Maintenant, quelle est l'intention? Pourquoi Pierre écrit cette lettre-là, ces deux lettres-là? Et je pense qu'un des sentiments de Pierre, puis on le voit dans ses lettres, je vais vous lire quelques versets, il y avait sans aucun doute ce sentiment d'être un étranger sur la terre. Que sa maison, c'était avec le Seigneur. Puis qu'il n'était pas encore avec le Seigneur. Donc, en attendant d'être dans ma vraie demeure, il se sentait un étranger. Il sait que le monde est hostile à l'égard de l'Évangile. Il commence à voir la persécution de son vivant. Mais en fait, il est mort martyr. Ça commence, ça l'augmente envers les croyants. Et les croyants en souffrent. Puis il sait que là, sa mort arrive bientôt à cause de l'Évangile, qui prêche l'Évangile, parce que Jésus il a dit aussi. Puis là, à un moment donné, il est vieux, il est rendu vieux, ça s'en vient bientôt. Il ne va pas vivre éternellement. Donc, il sait tout ça. Sûrement que Pierre, il a hâte de rentrer chez eux. Il a hâte de rentrer dans la gloire éternelle. Et à quelques reprises, il parle de cette idée d'être un étranger. Puis, vous avez posé de tourner, je voulais lire rapidement, bien, à ceux qui sont étrangers, intéressant, le premier verset qu'on a lu, hein, des résidents temporaires qui sont... Un étranger, c'est quelqu'un qui est résident temporaire, qui n'est pas à la maison, en fait, c'est un étranger. Dans le verset 17 du chapitre 1, il dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc, c'est un moment, puis après ça, on s'en va dans notre demeure. Au chapitre 2, verset 11, Pierre les appelle « les étrangers et voyageurs sur la terre ». Hein, vous vous rappelez de ce verset-là, « on est des voyageurs sur la terre ». On s'en va dans notre vraie maison, on retourne à la maison. Quand on est trop longtemps en vacances, dans les valises, on est tanné, on a hâte de retourner à la maison. Bien, on devrait avoir hâte de retourner à la maison. Mais Pierre, je pense qu'il avait hâte dans la maison, de retourner avec le Seigneur. Et Pierre veut rappeler aux chrétiens qui souffrent, parce que de plus en plus, les chrétiens commencent à souffrir, bien, qu'on est juste passagers. Qu'on bientôt on va être à la main. Il veut les encourager à persévérer malgré la souffrance, malgré la persécution. Et il veut aussi les enseigner comment se comporter durant ce pèlerinage-là, comment on doit vivre pendant qu'on est ici sur la terre. Puis si je résume sa première lettre, bien, il leur rappelle la certitude de leur héritage à venir. Une certitude, c'est quelque chose qui va arriver. Que leur espoir est ancré dans les lieux célestes, en Christ. Il leur écrit comment être un modèle devant les non-croyants. Comment on doit agir devant les non-croyants qui nous regardent? Il leur écrit aussi comment être un modèle devant les croyants, entre nous, puis aussi comment être un modèle dans la souffrance. Tu souffres, tu es persécuté, comment est-ce qu'on peut être un modèle? Finalement, il rappelle aux croyants que le Seigneur va revenir. Ça, c'est la première lettre. Le Seigneur va revenir. Tenez ferme, le Seigneur s'en vient. Et la deuxième lettre de Pierre, probablement écrite au même destinataire, parce que dans le chapitre 3, verset 1 de 2 Pierre, ça dit, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Donc, probablement, c'est le même groupe à qui il écrit. Pierre met l'emphase dans cette deuxième lettre sur l'espoir qu'on obtient quand on s'appuie sur Dieu pour nos besoins. Hein? En lui, on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On voit ça dans 2 Pierre 1, 3. On peut faire confiance aux Écritures pour nous guider dans la vérité. Et Pierre va dénoncer les faux docteurs. Donc, on va dénoncer ensemble les faux docteurs, parce qu'il y en a de notre vivant aujourd'hui encore, des faux docteurs, surtout avec l'Évangile de prospérité qu'on entend. Combien de personnes qui se font avoir et qui envoient de l'argent en espérant. C'est des gens qui souffrent, des gens qui sont découragés, puis ils envoient dans l'espoir de quelque chose qu'ils se font promettre par ces faux docteurs-là. Donc, un Pierre traite des problèmes externes de l'Église, donc la souffrance, la persécution. Deux Pierre traite des problèmes à l'intérieur de l'Église, des faux prophètes qui s'infiltrent parmi nous. Donc, c'est un encouragement à persévérer en temps d'épreuve. C'est un guide pour notre pèlerinage ici-bas. Maintenant, qui sont les destinataires? À qui est-ce que ces lettres s'adressent? Bien, Pierre écrit à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Alors, il y a des Juifs. Il y a des prosélytes. Des prosélytes, c'est des païens qui se sont convertis au judaïsme. Parce qu'il y en avait des gens qui, qui étaient des judaïsants, mais qui c'était anciennement des païens, qui s'étaient convertis au judaïsme. On les appelle les prosélytes. Puis il y avait des païens aussi. C'est sûr qu'il y avait des païens, puis possiblement qu'il y avait une majorité de païens. Écoutez ces versets-là. Verset 14, chapitre 1. « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » J'ai l'impression qu'il parle à des païens. Il était dans l'ignorance. Il connaissait pas Dieu. Il connaissait pas la loi. Il connaissait pas le judaïsme. Ils étaient dans l'ignorance, puis ils étaient dans leur convoitise. Il dit, ne vous conformez pas à ces convoitises-là pendant que vous étiez dans l'ignorance. Au verset 18, il dit, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alors, possiblement encore là, que c'est des païens qui ont hérité par leur père de vivre d'une manière vaine. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient, des parents qui étaient dans la... des Juifs ou dans avec la loi puis toutes les Écritures de Moïse. Donc, c'est des étrangers, voyageurs sur la terre, que Pierre répète au chapitre 2, 11. Ils sont dispersés géographiquement à travers 5 provinces romaines, puis aujourd'hui, c'est la Turquie moderne, mais si on regarde, c'est vraiment la même place, puis on voit que toutes les places qu'il dit, que j'ai lues tantôt, sont vraiment toutes comme autour de la Turquie moderne qu'on connaît aujourd'hui, mais tout autour. Donc, c'est tout dispersé géographiquement à travers 5 provinces romaines. Il dit ensuite des élus de Dieu. Il s'adresse à des élus. La doctrine de l'élection. Et là, je ne vais pas faire une grosse exposé là-dessus ce matin, inquiétez-vous pas. Mais la doctrine de l'élection. Dieu a choisi ceux qui allaient être sauvés. Je ne sais pas votre position, parce que même si on est d'une assemblée de frères, je sais que même dans les assemblées de frères, il y en a qui penchent plus du côté calviniste, puis Dieu nous a choisis, puis il y en a qui sont plus un petit peu, tu sais, plus que, ouais, mais Dieu nous a, tu sais, c'est les deux vérités, hein, Dieu nous a choisis, mais on est quand même libre arbitre, on est responsable. Puis, tu sais, dans les églises, je sais que c'est des fois, il y en a qui penchent plus d'un bord, puis il y en a qui ça choque, puis il y en a qui penchent. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas embarquer dans ce débat-là ou dans cette explication-là. Mais c'est une vérité dans la parole qui a créé beaucoup de chicanes. Récemment, je lisais un débat sur Internet, Facebook. Facebook, là, pas toujours bon. Hein. Mais ces deux chrétiens que je connaissais, je vais lire leur discussion. Puis il y en a un qui était plus calviniste, plus, tu sais, Dieu nous a choisis. Puis l'autre, écoute, il a écrit, il a écrit ceux qui croient que Dieu, en tout cas, à propos de l'élection, il dit que vous soyez anathème. Hey, c'était épouvantable ce qu'il disait, mais voyons donc. Hey, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, il y a de la chicane à cause de ça dans nos milieux, malheureusement. Et puis moi, je n'en revenais pas quand j'ai lu ça. J'ai fait un copier-coller, je l'ai gardé pour me rappeler de ça. Il y a une tension parce que, oui, Dieu nous a choisis. Il y a l'élection qui est claire pour moi dans les Écritures, mais il y a aussi qu'on est responsable parce qu'on a été créé libre. Donc, c'est deux vérités qui ne semblent pas aller ensemble. Et on peut parler des heures et des heures de la prédestination et du libre arbitre de l'homme, mais ça ne donnera pas grand-chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Moi, j'ai déjà essayé, ça n'a rien donné. Je n'ai pas plus compris, je n'ai pas plus convaincu l'autre que ce que je pensais, puis je n'ai pas plus été convaincu. Ça n'a rien. C'est peut-être le fun, des fois, de discuter de ça, quand ça reste gentil puis ouvert, mais ça ne donne pas grand-chose. Moi, je crois que la prédestination est biblique, mais je me dis que ça appartient à Dieu. Parce que je comprends pas comment tout ça peut fonctionner avec notre libre arbitre. Alors, je me dis, c'est la partie à Dieu. Ce qui m'appartient, moi, c'est le libre arbitre qui m'est donné, puis c'est le fait que je suis responsable pour moi-même, puis que moi, je vais rendre compte de moi-même devant Dieu. Alors, c'est souvent ça que je dis au monde. Arrête de capoter avec ça, là. Puis concentre-toi sur ce que Dieu te demande. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. accepte le cadeau de la grâce, viens au pied de la croix, repens-toi. Occupe-toi de ça. Le reste appartient à Dieu. Donc, je ne veux pas parler plus que ça de ce sujet-là. Si ça vous tente, on pourra en discuter ensemble après. Ensuite, donc, il écrit à des élus, il écrit aussi à des croyants qui expérimentaient la souffrance. L'Église n'est pas dans le pire de la persécution, quand Pierre écrit. Le pire était à venir sous le règne de Domitien. Domitien, il a commencé à régner de 81 à 96. Ensuite, il y a eu Trajan de 98 à 117. Ensuite, on a eu Adrien, puis Dioclétien en 284 jusqu'à 305. Ça s'est tout le temps amplifié, la persécution. Mais Néron, il avait quand même commencé à persécuter les chrétiens. Néron, on va en parler un petit peu, parce que c'est lui qui est là, dans ce temps-là. En 64, il y a un incendie qui a brûlé une grande partie de la ville de Rome. Puis vous avez sûrement déjà entendu ça dans les cours d'histoire de l'Église. Et par hasard, le domaine de Néron et de son principal conseiller, Tigélien, rien. Ils n'ont pas brûlé. Et Néron, il avait besoin d'un bouc émissaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a blâmé les chrétiens. On disait des chrétiens qu'ils étaient athées parce qu'ils rejetaient les autres dieux. Quand les chrétiens disaient que c'est Jésus-Christ, le seul Dieu, tu rejettes les autres dieux, fait que tu es athée. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu les rejettes. On disait qu'ils étaient des cannibales. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mangé le repas du Seigneur. On a mangé son corps, on a bu son sang. Mais on le sait que nous, c'est pas vraiment son corps, c'est pas vraiment son sang. On le sait que c'est des symboles. Mais, tu sais, les gens disaient ça, hein, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Jésus l'a dit lui-même, puis même dans les évangiles, il dit, mon sang est vraiment un breuvage, puis mon corps est vraiment une nourriture. Il y a des versets que, même plus loin, il dit, ce que je vous ai dit est spirituel. Hein, Jésus le dit, mais les premiers chrétiens, bon, il y avait peut-être des gens qui croyaient ça, même que l'Église catholique croit encore que la transsubstitution, quelque chose comme ça. Je n'ai pas été élevé dans cette église-là. Mais... Alors, c'est des cannibales. Les chrétiens sont des cannibales parce qu'ils mangent et boivent le sang et le corps de Christ. On disait aussi qu'ils étaient incestueux. Ben oui, parce que c'était tous des frères et sœurs qui s'aimaient. Alors, c'est des incestueux. Alors, on disait toutes sortes d'affaires contre les chrétiens et on ne les aimait pas. Donc, si Néron les blâme pour le feu qu'il y a eu à Rome, je veux dire, les Romains, en général, ne vont pas aimer les chrétiens. Je dirais, ils ont mis le feu à notre ville. Alors, ça commençait tranquillement, et toutes sortes d'idées à propos d'eux qui étaient des mensonges, clairement, on le sait, qui étaient véhiculés. Alors, quand tu deviens chrétien, tu passes pour un incestueux cannibale qui a mis le feu à Rome. Tu n'as pas le goût trop de devenir chrétien, peut-être. Selon l'historien Tacite, qui est tout premier, deuxième siècle, qui a écrit des choses lui aussi, lui n'aimait pas les chrétiens. Il dit « Néron a brûlé des chrétiens vivants comme des torches pour éclairer ses jardins la nuit. » Ça, c'est Tacite qui écrit ça dans ses écrits. Néron a tué des chrétiens dans l'arène, on le sait, avec les lions et avec les bêtes féroce pour divertir le public. Il a assassiné des centaines, probablement même des milliers de chrétiens qui étaient à Rome. Alors, les chrétiens commencent à vivre des persécutions de plus en plus. Et cette lettre de Pierre, sans aucun doute, a été un encouragement pour les chrétiens qui souffraient la persécution, puis pour la génération qui va suivre, parce que ça va amplifier sous les autres empereurs qui vont venir. Et je vais conclure avec... Fait que là, ça nous a donné une idée de l'auteur. On a regardé si Pierre est vraiment crucifié la tête à l'envers. On voit que dans l'histoire, même en dehors de la Bible, il y a beaucoup de choses qui parlent que peut-être que oui, c'est arrivé. On a vu qui étaient les destinataires. On voit que c'est des moments qui souffrent. On a vu un peu qui était le bonhomme Néron, qui était un petit peu fou, sadique, violent. Et je veux conclure avec... un autre texte qui est un petit peu long, mais pas si pire, mais je vais vous lire. C'est un texte que j'ai trouvé intéressant. Mais avant de le lire, Pierre, il dit que c'est une grâce de supporter la souffrance. On le voit dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre au verset 9, au verset 20. C'est une grâce de supporter la souffrance. Mais quand Pierre parle de la souffrance, il parle toujours, c'est toujours en lien avec la persécution dans sa lettre. Ça n'exclut pas qu'on peut s'approprier ces vérités-là si on souffre de d'autres manières que la persécution. Mais le contexte de Pierre, quand il parle de « c'est une grâce de supporter la souffrance », c'est vraiment en lien avec la persécution dans sa lettre. Et la persécution, vous savez, elle va toujours avoir un effet de purifier l'Église. Si on commence à être persécuté au Québec, nos églises vont se vider, puis probablement que c'est les vrais croyants engagés qui veulent suivre Christ coûte que coûte qui vont rester dans nos églises. C'est ce qui est arrivé du temps de Pierre. Il y a une lettre que Pline le Jeune a écrite que je trouve hyper intéressante. C'est un homme politique qui a vécu de 61 à 113, Pline le Jeune. Il a écrit à Trajan, qui était l'empereur de son époque. Et dans sa lettre, on voit l'effet de la persécution. Comment cette persécution nettoie l'Église. Les faux, ils s'en vont, puis les vrais restent. Puis si c'était vrai dans le temps, c'est encore vrai aujourd'hui. Et Pline, qu'est-ce qu'il fait? Il demande conseil à Trajan pour savoir comment gérer les procès contre les chrétiens. Et je vous lis ça. Je trouvais ça intéressant comme texte. Bon, il dit, entre-temps, dans le cas de ceux qui m'ont été dénoncés en tant que chrétiens, il dit, j'ai observé la procédure suivante. Autrement dit, quand les gens me dénoncent qui sont chrétiens, bien, voici comment je procède. Je les ai interrogés pour savoir s'ils étaient chrétiens. Ceux qui ont confessé être chrétiens, mais je les ai interrogés une deuxième et une troisième fois, les menaçant de punition. Il dit, oui, je suis chrétien, puis là, c'est passé, deuxième fois, puis une troisième fois, sous menace. Ceux qui ont persisté, j'ai ordonné leur exécution. Fait que le vrai croyant, là, il dit, oui, je suis chrétien, avec sous menace, oui, je suis chrétien, OK, go, va faire exécuter. Ça, c'est comme ça que Pline, il gérait les chrétiens, puis les procès, puis le problème avec le christianisme de son époque. Il dit, ceux qui ont persisté, j'ai ordonné leur exécution, car je ne doutais pas que, quelle que soit la nature de leur croyance, leur entêtement et leur obstination inflexible méritaient certainement d'être punis. Après un certain temps, de nombreux autres cas m'ont été présentés. Fait que là, il y a eu d'autres chrétiens qui ont été, lui, puis lui, bon. De nombreux autres cas m'ont été présentés. Il dit même un document anonyme contenant les noms de nombreuses personnes m'a été envoyé. Fait que quelqu'un qui a fait une liste des chrétiens a envoyé ça à Pline, il dit, hey, regarde, tout ça gang-là, c'est des chrétiens. Fait que là, Pline, il y avait ce document-là, document anonyme. Fait qu'il dit, certains ont nié qu'ils étaient des chrétiens ou qu'ils ne l'avaient jamais été. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas subir ce que les autres subissent. Ils ont fait appel au Dieu et ont invoqué votre image. On parlait de l'empereur. Que j'avais apporté à cet effet avec de l'encens et du vin, et ils ont aussi maudit Christ. Il n'a absolument pas été exécuté. Avec le non, moi, je ne suis pas chrétien, puis on va adorer les autres dieux, puis on va adorer Trajan, puis l'empereur, puis on va même maudire Christ pour te prouver que je ne suis pas de ce gang-là. Pourtant, c'était des gens qui avaient été supposément des chrétiens, ils avaient été envoyés avec un document anonyme. Et je ne pense pas que ceux qui sont vraiment chrétiens puissent être forcés à le faire. Autrement dit, lui, il savait que les vrais, vrais chrétiens, ils se rendent jusqu'au bout, puis je suis obligé de les exécuter. Il dit, d'autres qui étaient sur la liste ont déclaré qu'ils étaient chrétiens, mais ils l'ont ensuite nié, affirmant qu'ils l'avaient déjà été, mais avaient cessé de l'être 3 ans auparavant, d'autres plusieurs années, certains jusqu'à 25 ans. Autrement dit, j'ai décidé de le suivre, mais ça fait 25 ans que j'ai abandonné ça, ces conneries-là. Et non, je ne le suis plus, le Seigneur Jésus. Bon, ça fait 25 ans. Fait que, il y en a qui c'est ce qu'ils disaient. Ils ont tous adoré votre image, en parlant de l'empereur, et les statues de nos dieux, et ils ont aussi maudit le Christ. Cependant, ils ont affirmé que leur unique faute était qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer un jour fixe avant l'aube et de chanter avec résonance un hymne à Christ comme à un Dieu. Ensuite, ils avaient coutume de se rassembler pour prendre un repas. Même cela, ont-ils affirmé, ils avaient cessé de le faire après mon édit par lequel, conformément à vos instructions, j'avais interdit les rencontres religieuses secrètes. Alors, je trouve ça intéressant, c'est quand même, c'est pas dans la Bible, c'est Pline, mais on voit que dans cette lettre-là, la persécution a eu comme effet de purifier l'Église. Les vrais croyants restent, persévèrent, les faux croyants abandonnent la course. Vous savez, le Seigneur nous fait passer par beaucoup d'épreuves, nous aussi. Allons-nous passer le test? Et il y a toutes sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve des plaisirs du monde, des influences, l'épreuve des souffrances injustes, que ce soit la maladie, les décès, l'épreuve de la déception des autres croyants. J'en ai du monde qui ont abandonné parce qu'ils ont vu tel, puis tel, puis tel, puis tel. Oui, non, vous êtes toute une gang de... Vous êtes tous faux. Puis moi, je veux rien savoir. J'en ai vu des gens aussi abandonner à cause de la déception des autres croyants. L'épreuve des attaques des non-croyants contre notre foi. L'épreuve des vérités bibliques difficiles à supporter. La prédestination, pas facile toujours. L'enfer, ça me tente pas de croire à ça. L'épreuve du silence de Dieu, ça se peut qu'on soit dans un temps où on crie à Dieu et il ne me répond pas. Ça fait 4 ans qu'il ne me répond pas ou ça fait, je ne sais pas. Il y en a comme un moment donné, il dit, tout assez. Et je vais retourner. Moi, j'ai quasiment fait ça. Quand je me suis converti, j'ai crié pendant 6 mois que Dieu me délivre. Je dis, il ne me répond pas, il doit m'avoir abandonné. Puis là, j'avais décidé de revirer dans le monde. J'ai dit, je vais te laisser une chance. C'est comme ça, on peut laisser une chance à Dieu. Mais j'ai dit, réponds-moi, puis je vais rester. Dis-moi que tu es là. Mais finalement, il m'avait répondu, mais je ne veux pas rentrer dans cette histoire-là. Mais l'épreuve du silence, c'est une épreuve aussi. L'épreuve de la torture, de la persécution, que ce n'est pas notre cas encore pour nous, mais un jour, peut-être que oui, ça va venir. Et à travers les années, j'ai vu tellement, j'en ai vu plusieurs des chrétiens abandonner la foi à cause des épreuves. Alors, j'espère, moi, que ces lettres qu'on va lire ensemble, étudier, vont être un encouragement pour chacun de nous. Ils l'ont été pour nous à Saint-Jean quand on l'a fait, ça fait déjà plusieurs années, mais j'espère que ça va être un encouragement pour persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et je termine, on va lire 1 Pierre 5, 6 à 11. Alors, 1 Pierre 5, 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais Père, on veut te dire merci pour ces textes, ces deux lettres qui ont été préservées jusqu'à nous. Puis on veut certainement les lire, les creuser, les comprendre pour aller chercher un encouragement pour nos vies. Donc, que ça puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous ici durant les prochains mois qu'on va étudier 1 et 2 Pierre. Merci encore pour ta parole. Pour l'Église ici, l'Assemblée, puisses-tu bénir chacun, chacune. Puisses-tu, Père, briller ici, aux alentours, ton témoignage puisse attirer d'autres gens à l'Évangile, au salut qu'on a en Jésus-Christ. Et je prie en toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.